Bien. Oui, je l'annoncerai rapidement en fin d'étude. Bien, écoutez, je crois que puisque ce soir est la première séance de cette série de réflexions sur la catégorie de la création à partir de l'enseignement de la Bible, donc de la tradition hébraïque, je vais surtout poser une série de questions. Et puis nous les aurons donc en tête à travers toute la semaine et nous les retrouverons dans la séance de récapitulation qui aura lieu dimanche après-midi. En fait, il est bien évident que si nous nous basons sur le premier récit du commencement, le Maase Bereshit, le premier chapitre de la Genèse, nous sommes en plein, de plein pied je veux dire, dans un vocabulaire qui est de l'ordre de la transcendance. On nous parle d'abord d'un Dieu créateur du monde et de l'homme. Et par conséquent, du point de vue des catégories proprement hébraïques, la notion de l'acte créateur est réservée à Dieu en tant que créateur. Apparaît une première question. Y a-t-il place dans la mentalité de la tradition juive pour la notion de l'homme créateur? Et dans quel sens? Déjà ce matin, et dans les textes de l'étude en matinée, et nous nous attachons à découvrir le fait qu'il y a une différence d'essence dans la définition même de l'être entre l'être créateur et l'être de créature. Et par conséquent, il y aurait dans ce vocabulaire de transcendance sur lequel on embraye de plein pied dans le récit biblique, il y aurait une contradiction à définir l'être de créature dans une capacité de créateur. Il y a là à tout le moins, disons, une ambiguïté, un problème que je pose donc comme question. Et d'une certaine manière, nous pourrions le formuler de la manière suivante. Et la tradition nous habitue, et nous allons le voir immédiatement dans la lecture du premier chapitre de la Genèse, à une différence de niveau, à une différence de registre. Pendant tout le temps que dure l'histoire de ce monde-ci, de Olam Hazeh, entre ce que nous appellerons immédiatement le projet du Créateur à l'origine et d'autre part l'histoire de l'effectuation de ce projet dans la réalité, l'histoire du monde. Nous sommes de plein pied dans un discours qui commence par la notion de création mais qui aboutit dans une perspective de messianité, d'accomplissement, à l'idée d'un monde accompli. Mais ce monde accompli est déjà dans sa perfection totale dans le projet du Créateur. Et par conséquent, quelles que soient les péripéties de l'histoire de l'effectuation dans la réalité, la médecine en hébreu, tout est déjà, non pas prévu, non pas prédestiné, non pas dit, ce sont d'autres registres de vocabulaire, mais tout est déjà là dans le projet du Créateur. S'invente-t-il quelque chose d'autre ou de nouveau que le projet du Créateur lui-même qui tend à une réalisation dans la perspective de Olam Haba, du monde non pas à venir, mais du monde qui vient à travers l'effectuation de ce monde-ci. Quelle serait donc la part de l'homme dans cette perspective? Voilà donc la première question. Eh bien, je voudrais tout de suite l'appuyer sur la mise en évidence d'une caractéristique du récit de la Genèse que peut-être les traductions ou des habitudes intellectuelles nous empêchent de voir de façon suffisamment claire. Nous sommes habitués, de façon un peu trop rudimentaire peut-être, à l'idée d'un créateur qui impose à sa créature une manière d'être dans l'existence sans aucune marge de liberté, sans aucune marge d'autonomie. Et donc l'idée d'un Dieu ayant créé un monde qui se trouve être comme il aurait voulu le créer. Au contraire, l'expérience spirituelle de la tradition hébraïque, ce qui s'exprime dans la tradition juive elle-même, c'est celle d'une idée de la perception d'une inadéquation entre l'effectuation de ce projet dans la réalité, l'état réel du monde qui est le nôtre, et d'autre part, ce projet dans sa vérité. Je voudrais tout de suite le montrer par certaines particularités du récit. Je veux dire, et je ne sais pas si je suis arrivé à m'exprimer suffisamment précisément, je veux dire qu'il faut nous dégager, pour bien comprendre ce que la Torah veut nous enseigner à ce sujet, de l'idée d'un créateur qui aurait imposé à l'état du monde que nous connaissons sa volonté définitive, que l'état du monde que nous connaissons serait l'expression ultime de la volonté du créateur. Ceci est étranger à la tradition juive. Il n'y a pas l'idée d'une xéra, d'une décision que les choses soient comme nous les connaissons. Il y a une tension entre un projet du créateur et son effectuation dans la réalité. Nous sommes dans le monde de la réalité. Mais nous avons participation par la connaissance et par la connaissance de la foi à la vérité du monde qui, ceci véhiculant l'espérance messianique, qui ne s'accomplit de façon ultime que dans la perspective de Olam Haba. Olam Hazeh est un monde nécessaire dans le sens philosophique du terme. Il existe nécessairement tel qu'il est, mais provisoire. Ce n'est pas, si j'ose dire, le dernier mot de la parole créatrice. Et je partirai d'un problème de traduction. Et nous sommes habitués à cette phrase qui revient comme un refrain pratiquement au terme de l'œuvre de chaque jour dans le récit de la Genèse, et il en fut ainsi. Vayhi chen. Or, les traductions dans cette expression semblent nous inviter à penser que ce qui a eu lieu effectivement dans la réalité correspond exactement au projet du Créateur. Nous allons essayer de le suivre en hébreu et nous verrons qu'il en est tout autrement. Vayi chen, il en fut ainsi. En français habituel, ça voudrait dire c'est exactement ce que Dieu a voulu qui a eu lieu. Or, en hébreu, ça veut dire tout à fait le contraire. Ça voudrait dire il n'en fut qu'ainsi. Et cela, ce qui a eu lieu dans la réalité, effectivement, est quelque chose qui ressemble au projet. Chen, c'est comme. Et comme ne signifie pas exactement ce qui a été voulu. C'est quelque chose d'analogue. C'est quelque chose comme, pour employer un terme plus précis en latin, c'est quasi, à peu près. Bien sûr, dans l'emploi habituel de la langue hébraïque, et nous avons les connotations françaises de traduction, ainsi, ça voudrait dire exactement ce qui a été voulu dans le projet. Mais très certainement, et les linguistes l'éclaireront, peut-être qu'originellement, le mot même de « ainsi », dans son sens de « comme », en français même, signifie ce que l'hébreu voulait dire en disant « ren » à peu près. Il y aurait ici toute une analyse à faire de la catégorie de différence. La catégorie de ressemblance, reliée à celle de différence. Ça ressemble, mais précisément par le fait que ça ne que ressemble, c'est différent. C'est ce fameux problème très important de la dualité entre le monde de la vérité et le monde de la réalité en toute chose. La question est importante dans la tradition hébraïque, en tant que cette tradition est celle d'un monothéisme radical, qu'en fin de compte, nous savons que Dieu est un, que celui qui a voulu la vérité du monde dans son projet et celui qui l'a faite dans la réalité est le même, un et unique Dieu. Et donc cette perception d'un décalage, d'une dualité, ne fût-ce que dans l'apparence, mais elle est très clairement dite dans le récit de la Genèse, entre le niveau de vérité de ce que j'appelle le projet du Créateur, ou au niveau de la Mahashava, de l'intention du projet, c'est déjà le monde à venir dans sa complétude absolue qui est déjà là en principe totalement. Et cela ne laisse en rien de place à une invention quelconque qui serait nouvelle dans l'ordre de l'effectuation à travers l'histoire du monde. En tout cas, question. En est-il ainsi ou non? Eh bien, il est important de percevoir ce décalage entre la réalité et la vérité dans le récit que nous allons lire. Ou du moins dont je vous donnerai quelques points de référence ou d'illustration. C'est d'autant plus important pour la tradition hébraïque que la tradition hébraïque tout entière dans son option de foi refuse cette dualité et cependant la diagnostique dans un nécessaire provisoire. Tout le temps que le Olam Hazeh est ce qu'il est, que ce monde-ci est ce qu'il est, il y a décalage, d'imperfection dirions-nous, entre le projet de vérité et son accomplissement en cours d'effectuation. C'est ce qui nous est indiqué par cette expression qui rythme le récit de l'œuvre de chaque jour, « Vayi chen », et que je traduirai donc « il n'en fut qu'ainsi ». Comme si il y avait une sorte d'autonomie de la créature qui est interpellée par la parole créatrice et qu'elle ne réagit que dans une certaine capacité qui ne fait que frôler au niveau de la réalité ce qu'est le projet du créateur dans sa vérité. C'est cette marge, ce décalage, que finalement l'option de foi de l'hébreu refusera, Dieu est un, et en fin de compte la réalité coïncidera à la vérité, ou la vérité coïncidera à la réalité, mais de façon ultime, et que nous lisons donc dans cette expression « Vayi chen ». Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je veux dire, nous sommes tellement habitués par les traductions à de fausses évidences que nous projetons sur le texte hébreu, en fin de compte, et ici, dans ce cas particulier, le contraire de ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le récit de la Genèse ne nous dit pas du tout que le monde, dans sa réalité actuelle, correspond au projet du Créateur, comme s'il y avait un fiat, xéra en hébreu, que Dieu avait décidé et imposé à sa créature d'être comme elle est. Non, nous verrons qu'il y a une plasticité, il y a une sorte de tentative asymptotique, si j'ose dire, pour employer un terme de mathématiques, à ce qu'est le projet du Créateur dans sa vérité, et que la réalité ne fait que tendre vers l'espérance hébraïque étant qu'un jour il y aura coïncidence, ce que nous appelons le Olam Haba. Un monde tel que Dieu voulait qu'il soit. Alors, énormément de questions apparaissent là. Et pourquoi fallait-il passer par ce monde provisoire nécessaire qui est le Olam Hazeh ? Ceci, nous le verrons d'autre part. Mais d'abord, la description du problème. Il y a décalage dès l'origine entre la volonté du Créateur en tant que Créateur au niveau de son projet de vérité et l'effectuation dans la réalité tant que nous sommes encore en cours d'acquisition de l'être. Ce n'est que de façon ultime qu'il y aura coïncidence. Je vais ouvrir une petite parenthèse en m'appuyant sur le vocabulaire de la Kabbalah. D'une certaine manière, au niveau du projet, le monde à venir existe avant ce monde-ci de la réalité. C'est d'abord le monde à venir dans sa perfection totale que Dieu crée dans son projet, et ensuite il le met en cours d'histoire dans la réalité sous une forme diminuée, approximative, qui est l'état de ce monde-ci en tant que tel. C'est une forme que j'appellerai peut-être, pour garder la familiarité du vocabulaire biblique, sous une forme embryonnaire. Gardons cette image, déjà. Ce monde-ci est par rapport au monde à venir, un peu comme un monde embryonnaire serait par rapport au monde d'après une naissance. Et c'est très différent. Un embryon est l'enfant qui est né. Et la tradition juive a toujours eu conscience aiguë que toute l'histoire de ce monde-ci est comme une histoire embryonnaire en quête d'une naissance au monde à venir. Nous disons en hébreu « monde qui vient » parce qu'il est constamment en avènement, si vous voulez. Il y a apparemment une exception dans tout ce récit, c'est l'œuvre du premier jour. Parce que là, c'est le même terme qui est formulé dans le projet et dans l'histoire de l'effectuation de réalité. « Yehi or » qu'il y ait lumière, c'est le projet. Vayehi, or, et il y eut lumière, c'est le récit de l'effectuation. Mais c'est le même terme qui est employé. Il n'y a pas ici vayehen, et il n'en fut qu'ainsi. La lumière, c'est la lumière. Mais cependant, la Kabbalah intervient, la source se trouve d'abord dans le Zohar, c'est que la lumière qui eut lieu dans la réalité effectuée n'est cependant que une approximation de la lumière du projet. Cette lumière du projet, elle est réservée, nous dira le Midrash, à ceux qui la mériteront, aux justes, aux tzadikim, la lumière des commencements. Mais cependant, c'est bien de la lumière qui nous est donnée dans ce Olam Hazeh nécessaire mais provisoire. Lumière diminuée, mais lumière quand même. Et donc l'exception n'est qu'apparente. Même dans l'œuvre du premier jour, il y a décalage entre la lumière du Yehi Or et la lumière du Vayehi Or. Ce que le Zohar dit, Yehior, c'était la lumière du monde à venir. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la réalité, la lumière de ce monde-ci ? Et la lumière de ce monde-ci, par rapport à la lumière du monde à venir, est en état de tzimtzum, c'est-à-dire de diminution d'être, mais c'est cependant de la lumière. Et donc il y a exception, sans qu'il y ait exception même au niveau du projet de la lumière. Mais c'est surtout, si vous voulez, cette expression du Vayi Chen qui est importante. Et nous retrouvons dans le déroulement du récit le même plan dans l'énoncé de l'œuvre de chaque jour. Et c'est un travail que vous pouvez faire par vous-même, mais je vous en donnerai un exemple, l'exemple classique que cite Rashi. Nous avons toujours un certain nombre de points de structure du plan qui revient dans l'œuvre de chaque jour. D'abord, l'énoncé du projet. Par exemple, pour le premier jour, le projet, c'est qu'il y ait lumière. Ensuite, le récit de l'histoire. Qu'y a-t-il eu dans le monde de la réalité effective ? C'est Vayi Or, dans l'exemple du premier jour. Et il y eut lumière. Et nous savons déjà que c'est une lumière diminuée, mais c'est lumière quand même. Les termes employés, les verbes du faire apparaître à l'être, si j'ose dire, employés par l'hébreu de la Bible, sont différents. Le projet s'appelle Bria. alors que l'effectuation dans la réalité s'appelle Asiya, Vayaras Elohim. Les exceptions que nous pouvons trouver, Vayibra Elohim, ne sont qu'apparentes. De façon générale, le projet est effectué en termes de Bria, et c'est pourquoi les kabbalistes nous diront que le monde de Bria, c'est le monde à venir, c'est le Olam Haba, qui est au niveau de la Sphira Bina. C'est-à-dire dans le Mahashavat Tchila, dans le projet apparu au commencement, c'est le monde à venir dans sa perfection au niveau de Bria qui est là, en tant que projet. L'effectuation dans l'être de la réalité de ce monde-ci s'appelle Asiya, Vayaras Elohim, et Dieu fit. Je ne vais pas employer le terme trop particularisé dans le langage théologique qui impliquerait immédiatement des controverses avec d'autres traditions. Je me borne pour le moment à une description avec les mots les plus simples que je pourrais employer de cette différence de niveau. Au niveau du Olam HaBriya, c'est le monde du projet, il est dans sa perfection en tant que projet. C'est ce monde qui sera réalisé en tant que monde à venir. Dans ce monde-ci, c'est le Olam HaAsiya, c'est le monde de l'effectuation dans la réalité. Et il y a décalage entre, à peu près du même ordre, qu'il y a toujours décalage entre l'équation mathématique qui est au niveau du monde de vérité et sa réalité physique correspondante qui est au niveau de la médecine, de la réalité. Je pense que ceux qui pratiquent les méthodes des sciences pourront le dire mieux que moi-même. Il y a une sorte de marge de décalage que, s'il me semble bien, en épistémologie, on appelait le delta entre la formule mathématique et la formule dans l'application physique, cette même formule. C'est ce Vayichen qui apparaît là. Il n'en fut qu'ainsi. Encore une fois, je crois qu'il est nécessaire de le rappeler, ça fait problème, en particulier dans la tradition monothéiste juive, précisément parce qu'elle est moniste, parce qu'elle est monothéiste. Ce décalage de dualité est diagnostiqué et refusé au niveau de la foi, mais il est diagnostiqué dans la réalité. Il n'y a eu qu'approximation. Un exemple célèbre que cite Rashi, c'est dans l'heure du troisième jour. L'intention du Créateur, c'est que la terre produise Etzperi, arbre-fruit. Il y a là tout un thème extrêmement important que seul peut-être un poète arriverait à décrire suffisamment, ne serait-ce que par allusion, un arbre qui serait lui-même fruit. Pas de déchet dans le processus de l'apparition à l'être. L'arbre lui-même est en tant qu'arbre, fruit. Pas de distance, pas de différence, dirait la Kabbalah, entre l'écorce et le fruit. Le fruit et son écorce, pas de clipote. L'arbre est tout entier fruit, tout a un goût, et tout importe. Pas de déchets, pas de scories, pas de retombées, pas ce qui fait l'encombrement de chaos de ce monde-ci. L'arbre fruit, est-ce que c'est suffisamment clair? Ça dans le projet, Etzperi. Mais voilà que dans la réalité, ce que la création a produit, c'est l'arbre porteur de fruits, avec décalage entre la souche qui fera clipa, qui fera écorce, et puis le fruit qui porte l'avenir de l'engendrement, qui porte l'avenir tout court. Et nous pourrions d'ailleurs exploiter ce que les Midrashim, que cite Rashi en particulier, enseignent à ce propos. Il y a là comme une faute de la création, comme une faute dans le fait qu'elle n'a pas répondu suffisamment haut à l'interpellation du Créateur. Que la terre produise arbre-fruit, mais voilà que la terre n'a pu produire qu'un chen, qu'une approximation, un arbre porteur de fruits. Et tout de suite apparaît l'espérance messianique, comme il arrivera un temps où vraiment se dévoilera l'arbre-fruit, et pas seulement l'arbre porteur de fruits. Vous retrouvez là, non seulement les midrashim du temps messianique, du 11e chapitre du traité de Sanhedrin, mais toute la vision prophétique du temps de la messianité, où le monde sera tel qu'il aurait dû être, coïncidant dans sa réalité avec son projet de vérité. Tout ceci est important pour poser la question de la part de l'homme dans ce qui se fait dans l'histoire de l'effectuation. Mais donc, sur le premier point, je crois qu'il est très important de réfléchir sur ce Vayhi Chen, et il n'en fut qu'ainsi. C'est-à-dire, la Torah elle-même, d'emblée, nous prévient que nous entrerons à chaque naissance dans un monde encombré des déchets d'approximation. Comme s'il y avait encore une trace de chaos qui accompagne notre histoire jusqu'à son évacuation définitive dans la vision messianique d'un monde où la réalité aurait rejoint le projet de vérité. Et vous rattacherez donc toute cette analyse au principe classique de la tradition rabbinique, sauf ma'asé, bemahashava trila. Ce qui n'adviendra qu'à la fin de l'œuvre était déjà au début, au commencement du projet. Et c'est donc bien le monde à venir qui précède d'une certaine manière ce monde-ci. Le Olam Haba précède le Olam Hazé dans le projet du Créateur. Et ce n'est qu'en fin de compte que dans la réalité, le Olam Hazé débouche sur le Olam Haba. Vous voyez donc comment la perspective messianique, de l'engagement messianique résout cette contradiction intérieure au monothéisme hébreu, alors que le Dieu de la vérité, et le Dieu de la vérité c'est le même, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on nous invite tout de suite à diagnostiquer un décalage entre la réalité et la vérité, en refusant ce dualisme au niveau de la foi, mais en le diagnostiquant au niveau de la perception. Et je crois que là, il y a une différence radicale entre Israël, de cette tradition hébraïque, et toute autre culture, et toute autre société vue dans ce problème. Et je schématise, bien entendu, et nous pourrons en discuter tout à l'heure, bien que partout ailleurs, dans toutes les autres sociétés, on a pu espérer, ne serait-ce que sous forme d'hypothèse, cette unité profonde de l'être. Et pourquoi le problème est important? Parce qu'il s'agit de la suppression de ce décalage, de tout cet entrebâillement dans le réel qui fait que le monde est encombré de déchets d'approximation, ce qui fait le drame de la prise de conscience de tout enfant devenu adulte, entrant dans un monde déjà commencé avant lui et où il rencontre le poids de ces scories du passé approximatif. Et peut-être que le commencement de définition de la piété, c'est un certain consentement à assumer ce passé approximatif et de continuer quand même l'histoire. Peut-être que apparaîtrait là le thème de la femme de Lot, la statue de sel, se retourner vers le passé des scories transforme en sel, c'est-à-dire en stérilité absolue, si j'ose dire. Alors que le sel tourné vers l'avenir, c'est important, c'est ce qui accompagne le levain du monde, la motzi, le sel. Vous comprenez un peu le problème important qu'il y a là. Ce que je disais, c'est que nous avons là une catégorisation dans l'histoire des cultures. Israël a été, nous en discuterons peut-être, la seule option humaine à refuser radicalement ce dualisme dont je parle entre la réalité et la vérité. Quelles que soient les apparences, et le texte de la Genèse, je pense l'avoir déjà suffisamment indiqué, très lucidement nous demande de voir les apparences telles qu'elles sont. Alors que toutes les autres cultures ont renoncé à cette exigence d'unité, et même si elles l'ont adoptée à un certain niveau d'orthologie de la foi insérée dans le message biblique, dans la conduite et dans le comportement, il y a renoncement, il y a consentement à cette dualité entre la vérité et la réalité. Nous pourrions changer de vocabulaire, entre le monde de l'esprit et celui de la matière, tous les dualismes, quels qu'ils soient. Il nous semble, pour nous, juifs, hébreux, avoir traversé l'histoire avec cette perception très aiguë que seul Israël a affirmé radicalement l'option d'unité, en particulier dans ce problème. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, son engagement moral dans la conduite de l'histoire est si différent, et de contenu et de forme, de toute autre culture. Ce n'est pas dans la tradition juive qu'on trouvera des formules de la sagesse des nations, entre guillemets, comme la justice n'est pas de ce monde. La justice n'est pas de ce monde, c'est le consentement de façon définitive à cette irréductible dualité. Je cherche ici un mot français qui traduirait le terme hébreu de yéouch.
Désespoir.
Désespoir, c'est pas seulement ce que je voudrais dire. Le fait de renoncer à quelque chose. De renoncer à quelque chose que l'on conçoit quand même comme vital, comme essentiel, et on y renonce quand même. C'est ce renoncement au principe de l'unité de l'être et le fait de s'abandonner avec regret, mais de s'abandonner quand même à une option de dualité. Démission, si vous voulez, mais avec malgré tout une dimension de conscience tragique, enfin de tragédie. Désespérance, peut-être. Exactement. Une sorte de désespérance que nous trouvons surtout dans la typologie biblique, dans l'histoire d'Ésaü. qui renonce à être Jacob et qui renonce avec regret, plus que regret, avec yéhouch. Je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est-à-dire, on voudrait bien, mais voilà, on ne peut pas. Il faut quand même être lucide. La vérité et la réalité ne coïncideront jamais. Le monde est dans la perspective du Vayihi-Chen. Il n'en fut qu'ainsi, et irrémédiablement, il n'en sera qu'ainsi. Pourquoi j'ai si longuement parlé de cela en introduction ? Peut-être pour nous aménager une place à ce que serait la part de l'homme en tant que créateur. Peut-être est-ce là, dans ce décalage entre la vérité et la réalité, qu'il aurait sa place. Faire coïncider le plus possible la réalité à la vérité. La vérité avec la réalité. Il y aurait là deux perspectives mystiques différentes. Faire descendre dans le monde, je voudrais éviter le terme d'incarnation, vous comprenez pourquoi, mais on le dirait plutôt en hébreu, les hakshim, réaliser, dans le sens fort du terme. Faire descendre dans le monde de la réalité, le monde de la vérité, ou bien faire monter le monde de la réalité dans le monde de la vérité. Il y aura deux perspectives d'expérience mystique, mais nous savons que la dominante d'option dans la tradition juive est bien précise. C'est faire descendre le monde de la vérité dans le monde de la réalité, beaucoup plus que de sublimer le monde de la réalité au niveau d'une transfiguration ascensionnelle dans le monde de la vérité. Je veux dire, cette transfiguration est entendue par l'hébreu comme la descente de la vérité dans la réalité. Et nous avons là, je vais essayer de mettre sous forme de raisonnement, de syllogisme simple, une indication très importante, dès le début du premier verset du premier chapitre. Dieu, en tant que créateur, a décidé de créer le monde de la réalité, c'est-à-dire de transformer le monde du projet de vérité, qui est parfait en soi, brillant, en monde de Rassia, Vayaras Elohim. C'est dans ce Vayaras Elohim que s'introduit cette approximation asymptotique dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est cela l'acte créateur, créer l'en bas à partir de l'en haut. C'est cela que Dieu a voulu. Et par conséquent, le projet consiste à rendre réel ce qui était vrai. Et donc, l'expérience mystique correspondante n'est pas l'ascension, mais au contraire, je devrais dire l'incarnation, mais étant donné le sens que cela a pris dans le vocabulaire de la théologie chrétienne, je ne pourrais pas l'employer. Mais vous comprenez quel est le terme. L'incarnation de quoi dans quoi ? Pas de Dieu dans l'homme, c'est pas ce que nous pensons, nous, juifs, hébreux, mais de la vérité dans la réalité. C'est le projet de sainteté, beaucoup plus que le projet de divinisation. Mais ceci, j'y arriverai en troisième point. Alors sans doute, peut-être, est-ce là la place de la capacité créatrice de l'homme, arriver à faire coïncider l'état de la réalité avec le projet de vérité. Mais on entend bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un projet prométhéen, de dérober au créateur sa prérogative de créateur, puisque tout est déjà créé dans la perspective du Olam Haba qui préexiste à l'histoire de Olam Hazeh. Si ceci a été suffisamment clair. Vous connaissez par exemple ce Midrash qui dit que six choses ont précédé l'histoire du monde, et en particulier le nom du Mashiach. Le nom du Mashiach est créé avant la création du monde. De nouveau, nous allons le comprendre après le même principe. Sauf Ma'aseh b'Machashav Atrila. Ce qui sera accompli à la fin de l'œuvre est déjà là, au début du projet. En tout cas, si cela est bien clair, l'homme ne peut rien inventer quant au projet de l'histoire du monde. Ce projet de l'histoire du monde est déjà totalement inventé par le Créateur. Ce que l'homme aurait à inventer dans sa capacité propre créatrice, c'est les moyens de faire coïncider la réalité et cette vérité. C'est pourquoi j'avais annoncé tout au début que mon analyse se développera d'emblée dans un vocabulaire de la transcendance absolue. Quelle que soit la part de l'immanence, eh bien tout est déjà créé au niveau de la transcendance. J'aborde un deuxième point de cette analyse, et je me base là sur un enseignement important du Rav Chaim de Volodjin, dans son livre célèbre Nefesh HaChaim. Quelques mots du Rav Chaim de Volodjin, il a été le principal disciple, plus que disciple d'ailleurs, Talmid Haver du Gaon de Vilna. Il suffit de dire le Gaon de Vilna pour savoir situer la hauteur du Rav Chaim de Volodjin lui-même. C'était la grande école de Lituanie, ça va faire plaisir à Bernard.
Et à d'autres.
Oui. Et à tous les élèves paradigmes de l'école de Lituanie. Et il a vécu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Il nous donne deux remarques dans son premier chapitre à ce propos. Parce que tout de suite, notre réflexion va se baser sur une question. Au fond, n'est-ce pas, notre problème n'est-il pas posé par l'expression qu'emploie la Bible lorsqu'elle dit, mais je cite les traductions, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si la définition que nous avons de Dieu, c'est d'être créateur, alors l'homme aurait été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image du créateur, avec capacité d'être lui-même créateur. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire être créateur au niveau des images, puisque tout ceci n'est qu'une image. C'est-à-dire que la capacité de création de l'homme serait image de la capacité de création du créateur. Je voudrais essayer de formuler une analyse de la traduction de cette expression « Betzelem Elohim » que les traducteurs nous traduisent par « à l'image de Dieu ». C'est un problème très très délicat. Parce que nous n'abordons pas simplement des problèmes de linguistique, de traduction, mais derrière, vous sentez tout le monde de problèmes théologiques qui se trouvent là. Si j'ose dire, il faut marcher sur des œufs de Pâques, d'ailleurs. C'est exactement le sujet. Que veut dire « à l'image de Dieu » dans le vocabulaire de la Bible hébraïque, qui nous interdit radicalement, par le Dieu, toute image. Vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, de ce midrash. Donc, je ne peux pas vous donner la source, parce que c'est un midrash, si j'ose dire, il ne faut jamais faire ça, que j'ai moi-même inventé. Et là, c'est-à-dire, un jour peut-être je l'écrirai, alors il y aura une source quelque part. Je veux dire, j'ai imaginé un midrash. Que lorsque Dieu a créé le premier homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras une image. C'était l'enfance de l'humanité. Et puis, lorsque Israël est arrivé au Sinaï, il lui a dit, tu seras sage et tu ne te feras pas d'image. Et tu n'auras pas d'image. Et j'ai peut-être toute l'histoire de la Bible en un petit
midrash. En deux images.
Et donc, cette expression à l'image de Dieu est difficile dans notre vocabulaire. Alors, on pressent déjà que ce n'est pas exactement cela que l'hébreu a voulu dire. Je voudrais citer, je profite d'ailleurs de la présence de notre ami le Père Dupuis, une première conversation que j'ai eue il y a très longtemps, juste après la guerre mondiale, avec le Père Dubois, qui se trouve actuellement à Jérusalem, comme vous le savez. Il était à l'abbaye du Sauchoir, et la première promotion de l'école d'Orsay avait été invitée à faire connaissance avec la promotion de ce temps-là de l'abbaye du Sauchoir. Nous avons eu une conversation sur beaucoup de sujets, en particulier à un niveau, disons, un peu naïf, pas tellement, mais enfin quand même. Je lui avais demandé, écoutez, expliquez-moi une chose. La conscience chrétienne a une conscience aiguë d'appliquer dans son intention profonde, la loi mosaïque, la loi biblique. Mais il est quand même écrit de façon claire dans les 10 commandements l'interdiction de se faire une image quelconque pour représenter la divinité de Dieu. Et comment se fait-il que, etc. Vous comprenez le problème. Il m'a répondu quelque chose d'extrêmement intelligent, d'extrêmement fin d'ailleurs. Et je vais le refroidir parce que c'est resté dans ma mémoire, de telle sorte de donner une illustration de l'impossibilité du dialogue judéo-chrétien à ce niveau-là, en tout cas. Il m'a répondu ceci. Bien sûr, c'est vrai. Dans les 10 commandements, Dieu a dit interdiction d'image représentative de la divinité. Mais voilà, il a vu que l'humanité ne pouvait pas se passer d'image. Alors pour que l'humanité ne tombe pas dans l'idolâtrie, il s'est fait lui-même sa propre image, de telle sorte que l'image soit cachère, si j'ose dire qu'elle ne soit pas idole. Comprenez qu'une conscience juive ne peut rien répondre à cela, sinon de prendre acte de ce qui a été dit. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que jamais un juif ne pourrait être non-juif. Et est-ce que vous comprenez que c'est là une stratégie de la providence divine qui ne nous concerne pas, et que par conséquent il ne peut pas y avoir de dialogue à ce niveau. Je reviens donc à ce problème, en vous donnant d'abord les deux remarques de la Chaïm de Vologin concernant notre sujet, et ensuite de revenir à l'analyse de l'expression elle-même à l'image de Dieu. Peut-être c'est là que nous trouverons une place pour répondre à notre question. Y a-t-il un koar, une capacité créatrice, les mots ayant leur sens simple, c'est-à-dire pris au sérieux, selon l'enseignement de la Bible, à l'homme? Quelle que soit la stratégie d'inventeur du faire l'histoire, en fin de compte, l'homme n'invente pas le monde, mais à tout le moins, sa sagacité, son ingéniosité, c'est l'effort de tenter de faire coïncider de plus en plus la réalité à la vérité. Mais cette vérité, elle n'est pas à découvrir, elle est à redécouvrir, elle n'est pas à inventer, elle est déjà projetée totalement, tarte et machmar, dans les deux sens du mot projet, projetée dans notre monde, au niveau du Olama Mahashava. Et bien, il nous donne ces deux remarques. Premièrement, il nous dit, faites attention, le Maase Bereshit nous emploie l'expression Betzelem Elohim, ce qu'on traduit à l'image de Dieu. Je reviendrai sur le mot Tselem par la suite. Mais il n'y a jamais l'expression Betzelem Hashem, mais Betzelem Elohim. Donc comprendre ce que signifie le mot Elohim lorsqu'il est employé pour dire Dieu. Et retenez que c'est le terme qui est employé pour dire Dieu comme créateur. Bereshit, Bara, Elohim. C'est Betzelem Elohim. Et d'autre part, la deuxième remarque, c'est la définition du mot de Elohim en son pluriel. Le Rav Chaim de Volozhin, c'est une tradition d'origine, depuis l'origine de notre tradition, mais c'est lui qui a eu, disons, le mérite, ou la gentillesse pour nous, de la formuler de façon aussi évidente, que ce mot de Elohim est au pluriel parce qu'il s'agit de l'unité de toutes les forces ou de toutes les manières d'être de la force divine. Le mot de Elohim, c'est l'ensemble de toutes les forces du divin qui sont autonomisées dans chacune des idolâtries, laquelle met en évidence une dimension de la divinité au détriment de toutes les autres, l'hypertrophie en fait une idole. Mais le mot de Elohim, c'est l'unité de tous les attributs divins ensemble. Et le Hachem, vous, à Elohim, lui est tout ce que vous, les hommes, appelez les dieux, tout à la fois. Nous avons un passage célèbre dans le Yotzer du Shabbat de Yom Tov du matin. Rou levado, marom vekadosh, osse chadashot, ba'al chima, ba'al mihamot, zoréar, tzedakot, vechena. Tout ce que les religions naturelles attribuent à chacune de leurs idoles, c'est l'ensemble des attributs d'un Dieu unique. Et c'est un objet de foi, je voudrais le répéter très clairement, un objet de foi, l'unité de la divinité n'est pas un objet de raison, n'est pas donné à la compréhension de la raison. Je voudrais vous citer là un texte célèbre du Zohar, qui est une option de la foi. Un texte célèbre du Zohar qui dit « Savoir que Dieu est grand, savoir que Dieu est bon, savoir que Dieu est tout-puissant, savoir que Dieu est tout-connaissant, savoir que Dieu est juste, tout cela c'est de la connaissance. Savoir que tout cela est un, c'est de la foi. Parce que chacun de ces attributs est contradictoire aux autres. C'est au-delà de la raison. Est-ce que c'est clair ? Il y a une espèce de, comment dire, de perte de la foi qui fait de croire que l'objet de foi est un objet de raison. On croit qu'on a gagné la démonstration de l'évidence rationnelle, on a en réalité tout perdu. Parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. Okay? Encore une fois, que Dieu soit ceci ou ceci ou ceci en ses attributs, c'est de la connaissance. Tout cela, nous l'expérimentons dans notre connaissance de son monde. Que tout cela soit un, c'est la foi hébraïque. Mais je dis bien foi, et c'est le mot qu'emploie le Zohar. C'est une option qui peut paraître comme folie aux yeux du philosophe. Et le philosophe ne se gêne pas pour le dire. La folie des judéens, des juifs. Judéens, c'était quand la Grèce avait rencontré la Judée à Hanouka. Okay. La folie hébraïque. Cette option que la justice doit être de ce monde, à la limite, par exemple. Que quelles que soient les apparences du Vayichen, il y a unité fondamentale de ce que le grec appellerait le logos de la vérité et le logos de la réalité. Ce que tout homme de bon sens refuse. L'homme de bon sens est naturellement dualiste, parce qu'effectivement il y a un décalage, encore une fois, entre la réalité et la vérité. Une petite indication peut-être au niveau de la gamatria, c'est quand j'ai dit tout à l'heure que sur ce problème, toutes les nations d'un côté, Israël de l'autre. Quel que soit encore une fois l'adoption par telle ou telle culture du message de l'unité qui vient de la Bible hébraïque, ceci est reçu cependant dans une effectuation dualiste. C'est tout simplement que la gamatria de Chen, c'est 70, et que ça renvoie aux 70 nations qui seraient d'une certaine manière l'approximation du projet homme, quasi. Okay. Je voudrais me référer avant d'exploiter les deux remarques donc, du Raphaïm de Volodine, pour élucider l'expression « à l'image de Dieu », « Betzelem Elokim », me référer à un enseignement d'un très grand livre, qui est un petit livre du point de vue de la quantité, d'un très grand livre du Moyen-Âge tardif, de Rabbi Chia Hanassi, qui vivait vers le XIe siècle au sud de la France et au nord de l'Espagne, qu'on appelait Rabbi Chia Asfaradi aussi, et qui est différent de Rabbeinu Bechaye, et qui, dans un livre qui s'appelle Higayon HaNefesh, indique ceci. C'est qu'il n'y a que deux cas dans le récit de l'œuvre de la création, de l'œuvre du commencement, où ce n'est pas écrit Vayichen, mais où il y a le mot du projet qui est repris dans la réalisation. Et c'est la lumière, et c'est aussi le projet de l'homme. En fin de compte, c'est au verset 7 du chapitre 2 que la Torah nous dit Vayihi ha-Adam. Na'ase Adam, Betzalmenu Kidmotenu, le projet, et ça c'est au verset 26 du chapitre 1, et en fin de compte au verset 7 du chapitre 2, la Torah nous dit, dans le récit de l'effectuation dans la réalité, Vayihi ha-Adam le nefesh haya, et l'homme devint personne vivante. Et en fin de compte, il indique dans son enseignement qu'à la limite, il n'y a que deux réalités au niveau de l'essence des réalités, la lumière et l'homme, que tout le reste n'est qu'apparence. Peut-être que la physique moderne est en train un peu d'entrevoir, en quoi que ce soit, quelque chose de cet ordre. Okay. Il dit qu'il n'y a que pour deux réalités que la Torah a repris dans le récit de l'œuvre le mot qu'il y avait dans le projet. Yehior, vayehior, na'ase Adam, vayehi ha'Adam. Et le Rabbi Chia enchaîne, lequel de Adam? Vayehi ha'Adam, parce qu'il y a le He ha'Yedia, il y a le He de l'article. L'homme par excellence, celui dont on dirait, je cite les évangiles, excès homo, celui-là est l'homme. Okay. Et en ne citant pas dans l'intention chrétienne, mais l'expression qui est connue en français. Eh bien, la Torah nous dit, c'est justement, pas n'importe lequel, l'homme par excellence, celui qui coïncide au projet, et alors on nous raconte l'histoire à partir du premier homme, et un tel engendré un tel, ça passe par telle lignée plutôt que par telle. Tout ceci s'explique. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné ce compte rendu des généalogies, et en fin de compte, ça arrive à l'identité Abraham, Isaac, Jacob, qui devient Israël. Et à rattacher au Vayichen dans l'exposant humain, Ren 70, ça renvoie aux 70 nations, et puis d'autre part, l'homme de Atem Kroi Madam. Il y aurait donc ici le même problème. Et comment comprendre donc cette expression à l'image de Dieu. Un théologien, un philosophe, aurait la tentation, et cela existe, aurait la tentation de dire que ce qui fait que l'homme est à l'image de Dieu, c'est sa capacité de la pensée. Et que si l'homme est créateur, c'est parce qu'il est doué de penser. Que s'il y a quelque chose d'analogue entre Dieu et l'homme, c'est la pensée. Et bien sûr, dans un cas, la pensée infinie, dans l'autre cas, la pensée finie, mais malgré tout, voilà le point commun à Tzadachavé, où l'homme serait image du Créateur. Il y a une célèbre page de Descartes, très belle page de Descartes, dans les Méditations métaphysiques, où il montre que Dieu, en tant qu'ouvrier de l'homme, créateur de l'homme, faudrait-il dire, a mis dans son œuvre la marque du Créateur, la pensée. C'est une tentation de définition de théologie philosophique. En réalité, ce n'est pas la réponse de la tradition juive, parce que la tradition juive a préféré la définition de la spécificité de l'homme comme Hayam Daber, vivant, parlant, doué de capacité de parole, plus que Hayam Askil, le vivant pensant. La tradition juive a connu cette controverse qui a été très célèbre au Moyen-Âge, de cette perplexité, comment définir la caractéristique spécifique de l'homme par la pensée ou par la parole. Elle connaît la différence par la pensée, mais elle préfère indiquer cette différence par la parole. Je l'expliquerai très rudimentairement, peut-être nous allons y revenir demain soir avec la conférence de M. Goldberg. C'est que nous savons aujourd'hui que la pensée peut être impersonnelle. Je parlais tout à l'heure un peu du structuralisme, mais déjà au niveau du structuralisme de l'intelligence, nous savons que finalement la pensée peut être impersonnelle. Il y a des machines à penser, même qu'on les appelle les ordinateurs.